Béatrice Leroy, professeure honoraire à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, était l'invitée de l'Université du temps libre de Bayonne le 2 octobre dernier pour y présenter une conférence intitulée « La Navarre au Moyen-Âge, un royaume au cœur des voies internationales ». Nous écoutons la première partie de cette conférence enregistrée au Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne.
Madame Ponté, chers amis, je vous remercie d'être là en effet ce premier jour et je crois que ce n'est pas anodin de commencer vos conférences par l'histoire d'un royaume que vous connaissez certainement très bien. Bayonne et Pampelune sont jumelées. Je suppose que vous êtes des fervents de la San Fermines, vous avez l'habitude de vous promener de l'autre côté des Pyrénées. Oh, d'ailleurs, déjà Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, l'abbaye de Clérance se situent en Navarre, bien sûr, on le sait. Vous avez la carte. Je crois qu'il n'y a pas assez de feuilles pour tout le monde. Vous avez une petite carte de la Navarre réduite au XIIIe, XIVe et XVe siècle et une généalogie assez succincte des diverses généalogies qui se sont embranchées, donc qui se sont succédées à la tête de ce royaume de Navarre. Donc ce royaume que nous connaissons bien, j'ai voulu le situer aujourd'hui dans ses influences internationales qui lui ont donné certainement une originalité sur la scène internationale, bien sûr, en Occident. Il y a des royaumes en Occident qui ont été conquis par des étrangers, en général par la force des armes. Il y a eu ainsi d'autres, j'évoque le royaume d'Angleterre, par exemple, conquis par un duc de Normandie, mais qui revendiquait un héritage. Le royaume de Sicile, conquis par d'abord des seigneurs normands, puis par un comte d'Anjou qui, par son mariage, était également comte de Provence et qui, à l'appel du pape au XIIIe siècle, il s'agit du frère de Saint-Louis, a conquis le royaume d'Italie du Sud et de Sicile. Donc ce n'est pas extraordinaire, mais nous avons un royaume qui est hérité par un comte de Champagne, d'une princesse navarraise, et qui, sans tirer l'épée, sans être contestée, a régné en Navarre. En effet, commençons tout de suite par cette date, le 5 mai 1234, le comte de Champagne, Thibaut IV de Champagne, hérite du royaume de Navarre, et le voilà couronné à Pamplune le 5 mai 1234. Il faut évidemment expliquer un petit peu quelle est la Navarre, comment cet héritage se réalise et quelle est par la suite la politique résolument internationale des rois qui gouvernent la Navarre. Et nous allons essayer de dégager ces jeux d'influence, tantôt étrangères et françaises dominant la Navarre, de plus en plus influence navarraise prenant sur ces rois d'origine étrangère qui se trouve à sa tête. Donc un jeu de balance, d'apport, de collaboration très certainement, malgré quelques difficultés de temps à autre, mais qui nous donne cette histoire très originale. La Navarre naît sous le titre d'ailleurs de Royaume de Pamplune, et c'est tout, jusqu'au XIIe siècle, où elle prend le titre et le terme de Navarre. Donc cette Navarre naît vers 800, 810, 820. 820 serait beaucoup plus officiel, mais enfin, les Navarrais revendicateurs et nationalistes disent 800. Nous étions là en 800 et notre royaume était déjà indépendant. Bon, nous allons l'admettre, mais enfin, 800, 810, 820, que se passe-t-il dans la péninsule ibérique? Cela, c'est un petit peu à rappeler. La péninsule, au début du 8e siècle, qui était un très vaste et très vigoureux royaume tenu par des rois visigoths qui avaient fondé un très vaste état, très remarquable, avec des grands intellectuels et avec des constructions monumentales tout à fait remarquables et des lois excellentes. Ce royaume est battu par des troupes maghrébines des Berbères surtout, en majorité, mais encadrés par des Arabes qui viennent, c'est le terme des grandes conquêtes arabes des 7e et 8e siècles, voilà, donc qui en finissent en 710-720 et qui conquièrent la majorité, non pas toutes, mais la majorité du sol espagnol, cela vous le savez certainement. Les chefs Visigoths, autochtones, basques des montagnes, catalans, résistent comme ils le peuvent. Certains réussissent à fonder des états autour de leur centre de commandement. C'est le cas du royaume des Asturies, qui va peu à peu devenir le royaume de León, et puis affilié ou associé au royaume de Castille. Ceci plutôt au milieu du 9e siècle, dans les années 830-850, la prise de León, par exemple, 880, la fondation de Burgos. Vous voyez donc une avance chrétienne menue, mais très intéressante à suivre, depuis la côte, depuis Oviedo, jusque dans le cours du Douro. Et dans ce même mouvement, la résistance des Catalans qui demandent l'aide de Pépin le Bref et de Charlemagne, qui sont contemporains et qui, dans un premier temps, se donnent à ces grands organisateurs politiques voisins du des Cévennes aujourd'hui, enfin de la Catalogne actuelle, bien sûr. Et au centre des Pyrénées, probablement dans la région de Raqqa ou du nord-est de la Navarre actuelle, les autochtones basques et diverses choisissent donc vers 820, nous allons dire vers 820, un chef pour être à leur tête, pour les aider à lutter contre ces musulmans qui tiennent toute la vallée de l'Èbre, en émirat très important, et qui mènent le long des voies médianes de la chaîne des Pyrénées des raids à l'intérieur pour radier, pour brûler, pour prendre du butin, pour prendre les hommes et les femmes et les emmener en esclavage ou tout au moins en possession chez eux. Donc pour lutter contre cet état de fait, les autochtones nomment un chef, Inigo, qui les dirige. Inigo, surnommé en basque Arista, la paille qui crépite et qui jette des flammes sur les adversaires. Arista, voilà, Inigo. Et tout au long du 9e siècle, une série, on en compte 7, donc une qui passe assez vite, 7 Iniguez tiennent ce premier royaume de Pampelune, qui est évidemment extrêmement réduit, qui a la conque de Pampelune, quelques vallées pyrénéennes de l'ouest, qui tient très vite les ports de la côte, et lorsque nous allons voir en l'an 1000 et au-delà le royaume de Navarre, nous devons savoir que les actuelles provinces vascongane, donc le Guipuscoa, la Lava et la Biscaye, qui peu à peu prennent ce terme, évidemment, prennent ce nom, appartiennent à ce royaume de Pampelune, et ceci jusqu'au début du XIIIe siècle. Voilà donc une première extension et un essor qui est tout à fait autochtone, tout à fait original, donc de la part des habitants de la Navarre. Mais les musulmans sont toujours là, les musulmans envoient des raids, donc dans la vallée de l'Èbre. Tudela, par exemple, est une fondation absolument musulmane des années 800-810 également, siège d'un regroupement militaire qui dépend de l'émirat de Saragosse, qui est une institution militaire et politique musulmane de très grande envergure, contre laquelle il est très difficile de lutter. Et ce qui va devenir la Navarre se défend ainsi comme elle peut. Le roi Fortun, qui est le dernier des Iniguez, est emmené 20 ans en captivité à Cordoue. Il y eut des essais de mariage, il y eut des mariages entre les princesses de Pampelune et les divers émirs de la vallée de l'Èbre, sans ennui, sans difficulté, chacun gardant son culte. Donc des essais d'alliance, en général officialisés par des mariages, voyez, affermis par des mariages, mais la situation est tout de même très délicate. Lorsque, au bout de 20 ans, en 902, on va dire 905, Fortune revient à Pampelune, il apprend que son royaume vient d'être pris par un cousin qui s'appelle Sancho Garcés et qui fonde la nouvelle dynastie des Sanches, des Sanchez, qui, elle, demeure à la tête donc, de ce royaume de Pampelune qui est toujours ainsi. On tient dans les Pyrénées, on s'agrandit du côté aragonais, Raca fait partie de ce royaume de Pampelune, les terres aragonaises aussi, très disputées par l'émir de Saragosse, par les Catalans chrétiens, catholiques bien sûr de l'autre côté, mais qui tiennent aussi jusqu'au milieu, jusqu'au centre des Pyrénées, les vallées et les fortins, donc un royaume très incertain. Ce royaume des Sanchez lui-même a cependant un très haut roi qu'il faut absolument évoquer, qui est Sancho Garcés, Sancho III Garcés, qui est Sancho le Grand, Sancho el Mayor, qui est roi de 1005 à 1035. C'est un roi qui préfère la vie diplomatique plutôt que la vie militaire. Il a évidemment raison. Il est allié au comte de Gascogne, d'ailleurs par des liens de la famille autant que par les liens diplomatiques. Il a d'ailleurs l'héritage pour son royaume de Pampelune du nord des Pyrénées qui forme aujourd'hui la Basse Navarre, les collines et les petites vallées fluviales des Nives et de l'Adour dans ces territoires jusqu'à rejoindre le cours de l'Adour du côté de Yurte, par là. Tout cela relève de cet héritage de Sancho le Grand. Il a donc des possessions gasconnes, où les gens sont gascons, et parlant le gascon, parlant et écrivant le gascon ou le latin, bien sûr. Il a évidemment les montagnes aragonaises et navarraises, il a les provinces vascongannes, et il épouse l'héritière du comté de Castille, Mayor de Lara, qui a très bien profité, nous allons dire méchamment profité, des massacres de tous ses frères, les enfants de Lara, pour être la seule héritière de ce comté de Castille, qu'elle apporte à son mari. Et tous les deux, Sancho le Grand et Mayor de Castille, tiennent un état de très grande envergure, le plus large royaume chrétien, vous voyez, de la péninsule ibérique, en l'an 1000. Le royaume de Léon est beaucoup plus ramassé, les comtés catalans aussi d'ailleurs dépendent de l'empire carolingien, et donc c'est un très vaste royaume de Navarre qui va du Val d'Aran jusqu'à la Castille incluse. C'est un roi et une reine qui fondent des hospices pour les pèlerins de Saint-Jacques, je vais y revenir tout de suite, qui surtout en organisant, en convoquant eux-mêmes de convocations royales en accord avec l'Église, mais enfin c'est le roi qui en prend la responsabilité, en organisant des grands conciles de paix, d'organisation de territoire à Leyre et à San Juan de la Peina en 1020 et 1025. Ils organisent ces conciles pour faire pénétrer de façon officielle la liturgie romaine, la liturgie occidentale dans la péninsule ibérique, et surtout peut-être pour les monastères qui se sont fondés dans le courant du IXe siècle, mais qui ont encore des règles de conduite, des règles monastiques assez incertaines, la règle bénédictine qui est donc introduite dans l'ensemble de la péninsule ibérique par ce biais de la Navarre, donc à Leyre, qui est au sud de Pampelune, à Irache, qui se trouve à côté d'Esteia, puis, on le verra, à partir du XIIe siècle, des monastères cisterciens qui se greffent sur ces premiers monastères bénédictins. Règles bénédictines, liturgie romaine, Grâce à ce roi de Navarre, la péninsule ibérique s'ouvre aux règles de vie, aux règles monastiques, à la liturgie occidentale, romaine, relevant de Rome, relevant du pape, alors que les milieux chrétiens de la péninsule ibérique gardaient comme un souvenir qu'il ne fallait pas laisser partir et qui était au fond une raison d'être de résistance contre l'islam pour eux, car il y avait des communautés chrétiennes à peu près partout chez les musulmans et dans les royaumes chrétiens, donc tout à fait libérés, gardaient les coutumes wisigothiques traditionnelles qui étaient celles qu'ils avaient tous connues au moment de l'invasion des Arabes, et en particulier les textes rédigé au 7e siècle par saint Isidore de Séville, qui avait organisé les conciles de Tolède, qui avait écrit des règles monastiques, qui est toujours le très grand intellectuel de tout ce monde chrétien espagnol, mais qui n'était pas occidental, qui n'était que très remarquable, mais que espagnol, wisigothique, isidorien, nous pouvons dire, avec des nuances très particulières, très originales, mais très particulières, complètement coupées de tout ce qui se célébrait donc dans l'ensemble de l'Occident. Par Sanche le Grand, ces coutumes occidentales, j'insiste sur cette vie intellectuelle internationale par le biais de la Navarre, pénètre dans ce monde ibérique. Sanche le Grand, on lui doit le pont de Puente la Reina, on lui doit la plupart des routes pavées, voyez, organise les pèlerinages à Saint-Jacques, qu'il faut évoquer, car on va en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, Santiago, on y va depuis certainement le 9e siècle, peut-être un peu avant, mais en tout cas c'est depuis la seconde moitié du 9e siècle, on peut même dire la fin du 9e siècle, 880-890, que les rois des Asturies permettent l'invention et surtout la propagation de l'idée et de la réalité de l'invention du tombeau de Saint-Jacques le Majeur, qui avait été l'évangélisateur de l'Espagne et qui était mort par la suite en Terre Sainte, martyrisé par les Romains. Et puis son corps était revenu de façon miraculeuse, son corps a échoué quelque part au large dans la Galice, on le retrouve de façon magnifique et de façon miraculeuse, et c'est le pèlerinage d'abord des Asturiens, des rois des Asturies, puis des Espagnols en général, puis de tout l'Occident, on peut le dire, à partir de l'an 1000, et ceci très orchestré par Sanche le Grand et Donia Mayor, et tous ceux qui y collaborent et qui vont eux-mêmes. Vous devez savoir aussi, peut-être avez-vous fait le pèlerinage à Saint-Jacques, en tout cas je vous le souhaite, en partant depuis un point de la Navarre, vous devez savoir que toutes les voies occidentales, et ceci se fixe progressivement au XIe et XIIe siècle, XIe siècle en tout cas c'est déjà établi, la voie d'Arles, la voie de Vézelay, la voie de Paris qui est la voie de Tours, la voie aussi qui vient des régions rhodaniennes et du Puy-en-Velay, tout ceci se retrouve soit dans les régions béarnaises et franchissent le Somport pour passer en Espagne par le Somport et entrer en Navarre à Sangüesa. On entre toujours en Navarre. Ou alors, complètement en Navarre, la jonction des trois autres grandes voies qui se situent à Ostabat et donc la pierre de Gibraltar, dit-on, qui veut dire donc surtout Saint-Sauveur, qui est à côté de Ostabat et de la Tchag, serait le véritable lieu de rassemblement des autres voies. Et de là, cette voie monte le col de Roncevaux, qui, sur ses deux versants, est dans les mains du roi de Navarre, puisque le roi de Navarre, depuis Sanche le Grand, possède les collines de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui est un bourg castral, un bourg fortifié, justement pour protéger tous ces passages. Et dans ces territoires, le col de Roncevaux, qui est le col d'Ibagneta, et qu'à partir du XIe siècle, on appelle systématiquement Roncevaux, en lui fixant, est-ce que c'est vrai ? Sans doute non, mais peu importe, c'est plus joli d'y croire. en y fixant là même, dans ce haut du col di Bagnetta, une bataille qui s'est déroulée en 778, la bataille de Roncevaux, qui était le meurtre de l'arrière-garde de Charlemagne par les Basques des alentours, qui se vengeaient eux-mêmes d'un pillage de la ville de Pampelune qui avait été commis par Charlemagne au moment où Charlemagne descendait vers Saragosse, persuadé qu'il pourrait maîtriser Saragosse. Et qui avait cru à un moment donné dominer cette Navarre en la faisant rentrer dans ses états, ce qui n'a pas été donc du tout une réalité. Voilà toutes ces tissus de légendes, de on-dit, de traditions qui fondent en tout cas l'histoire de Roncevaux et l'histoire carolingienne, car il faut des grands hommes pour étayer les légendes, et de Roland, donc le neveu de Charlemagne. Mais la réalité est que Sancho de la Rosa, qui est évêque de Pampelune, dans les années 1110-1120, fonde 1130, au début du XIIe siècle, l'hospice de Roncevaux, sous le terme de Roncevaux, confié à des chanoines de la règle de Saint-Augustin, qui est une règle de frères, de chanoines hospitaliers ou enseignants, mais c'est le cas ici pour les hospitaliers, pour abriter les pèlerins. Et le texte de fondation dit que des milliers, évidemment c'est un texte latin, mais je traduis grosso modo, des milliers sont déjà morts emportés par les flots de la neige ou mangés par les loups qui étaient attirés par la faim et qui mangeaient les pèlerins qui passaient par là et qui venaient de partout. Il faut un hospice pour les réchauffer, les coucher dans des lits, et la Navarre tout entière va offrir ses lits et ses draps à Roncevaux désormais, de l'argent aussi bien sûr, mais le lit et le drap c'est une richesse, voilà. Et donc ainsi pour le développement de cette halte très internationale dès ses débuts pour l'accueil des pèlerins, pour le soin des villageois des alentours aussi, qui sont d'ailleurs des éleveurs de la montagne, qui ont des moutons, qui ont eux aussi beaucoup de difficultés à vivre, mais en tout cas qui sont aidés par les chanoines hospitaliers de Roncevaux, et pour cet accueil évidemment multiplié. Les successeurs de Sanche le Grand se partagent les états, car c'est une tradition occidentale, malheureusement, et que l'on voit dans tous les royaumes. Seul le frère aîné, Garcia, le fils aîné de Sanche, le frère donc aîné, reçoit le royaume de Navarre, désormais à peu près celui de votre carte, mais avec encore les provinces vascongannes, oui. Le second fils reçoit le royaume de Castille, qui était donc la possession de sa mère, Fernando, qui devient le premier roi Ferdinand du royaume de Castille. Le troisième fils, Ramiro, qui est sans doute d'une autre femme, devient délégué à la tête de l'Aragon et prend très vite le titre de roi d'Aragon. Et le dernier fils, Gonzalo, qui avait des petits comtés dans les alentours, est très vite éliminé par Ramiro, et Ramiro prend les comtés aux marges de la Catalogne. Donc quatre états qui se forment, trois états, le royaume d'Aragon, le royaume de Navarre, le royaume de Castille. Jusqu'à la fin, le royaume de Castille et le royaume d'Aragon en alternance vont garder le désir de reconquérir cette Navarre qu'ils auraient voulu avoir, qui est au cœur de leurs états, qui est au centre de leurs états, royaume de Castille, royaume d'Aragon, et c'est une série de guerres, de luttes et d'invasions que nous aurons jusqu'à la fin. C'est une histoire assez heurtée tout au long du XIIe siècle. Il se trouve que en 1076, Sancho el de Peñalén, qui est un fils du roi Garcia el de Najera, est assassiné par des compétiteurs qui sont payés par le roi d'Aragon. Et c'est le roi d'Aragon qui, tout au long du XIIe siècle, depuis 1076, prend dans ses possessions le royaume de Pampelune, portant le titre de roi d'Aragon et de Pampelune. Donc, point international négatif pour la Navarre. La Navarre est croquée par son voisin. Ce sont d'ailleurs des rois de très grande envergure qui se trouvent à la tête de l'Aragon, Ramiro, Sancho Ramirez, qui entreprend la reconquête du Val de l'Èbre, surtout les fils de Sancho Ramirez, Pierre Ier qui est le reconquérant de Huesca, Alphonse Ier le batailleur qui reconquiert Tudela 1118 et Saragosse 1119, avec des aides étrangères, car il peut évidemment lutter contre les musulmans, mais l'aide étrangère est toujours nécessaire. Le vicomte de Béarn, Gaston le Croisé, qui venait de se couvrir de gloire dans la conquête de Jérusalem, l'aide dans la conquête de Saragosse, et le comte du Perche, Rotrou du Perche, l'aide dans la conquête de Tudela, et il a été quelque temps seigneur de Tudela. On peut dire que c'est la première expérience d'un seigneur normand, enfin percheron si vous voulez, oui c'est normand, c'est plutôt dans les alentours de Chartres, donc le voilà qui se trouve seigneur de Tudela, mais cela n'a qu'un temps. Et enfin, Alphonse le batailleur meurt en 1134 après une terrible défaite devant les musulmans qui viennent encore du Maroc, les Almohades. C'est la défaite de Fraga, 1134. Il meurt très diminué le mois suivant. C'est alors que la Navarre, définitivement désormais prenant le titre de Navarre, Nafara veut dire peut-être en basque les montagnes, ou plutôt les vallées entre les montagnes, mais les philologues se disputent un peu. Donc cette Navarre redevient indépendante avec Garcia le Restaurateur, qui descendait des Sanchez et qui avait eu la gestion mais sous le gouvernement de l'Aragon, et c'est alors donc que les derniers Sanches tiennent ce royaume de Navarre. Là aussi, ce sont des rois très intéressants. Sanche VI, le sage, qui écrit le Fuero General, c'est-à-dire la loi de l'État, qui fonde des lieux, des territoires. Déjà, Sancho Ramirez avait fondé Estella, par exemple, pour abriter les pèlerins, pour mieux franchir les cours d'eau dans ces territoires. Mais enfin, les fueros sont donnés par ces rois dans les divers quartiers, c'est-à-dire des lois, des privilèges, un code de droit, nous pouvons mieux traduire fuero, mais on dit les forts en Béarn, vous voyez les forts et les fueros, donc les codes de droit pour l'installation des gens de toutes les origines, pour les rapports de bon voisinage, pour les levées des taxes, pour la prestation d'un service militaire, c'est très important, on leur permet de s'installer, on leur facilite leur venue, on leur donne une terre et des maisons, mais à condition qu'ils prêtent un service militaire, et c'est ainsi dans l'ensemble de l'Espagne, donc c'est ainsi pour la Navarre. Et puis après Sanche VI, Sanche VII, le fort, celui qui est enterré à Roncevaux, qui devait être très grand, on dit qu'il avait dépassé les 2 mètres, ce qui était tout de même assez rare. Il a été l'un des victorieux de la bataille de Las Navas de Tolosa le 16 juillet 1212, dont les Espagnols sont très fiers, qui a été une réunion de toutes les armes navarraises, aragonaises et surtout castillanes contre les Almohades, encore une fois, donc, et Sanche le Fort, qui avait perdu un fils, qui n'avait pas d'autres héritiers légitimes, meurt en ayant reconnu les droits de son neveu, qui est le comte de Champagne. En effet, la Navarre, comme l'ensemble des royaumes espagnols, qui peu à peu s'organisent, reconnaît tout à fait le droit des femmes à léguer un royaume ou léguer un territoire, et non seulement le léguer, mais aussi le gérer, l'administrer. Ne suit pas, si vous voulez, l'équivalent de notre loi salique que nous avons en France, qui refuse ce droit aux femmes. Bon, les dames de l'aristocratie épousant quelqu'un capable de gérer leur territoire, elles le donnent en dot, mais un royaume, ça ne se donne pas comme ça, ça n'entre pas dans le droit féodal pour la loi salique dans les royaumes espagnols, si. Et c'est donc l'une des sœurs de Sanchelefort, Blanche, qui avait épousé le comte de Champagne, Thibaut III, qui est mort en 1201 au moment où il allait partir en croisade. Elle était enceinte, elle a eu Thibaut IV, le posthume, qui est donc le premier neveu héritier de Sanchelefort. Sanchelefort l'avait fait venir en 1221, donc Thibaut avait une vingtaine d'années. Il est allé en Navarre, il est allé reconnaître son héritage, puis il est retourné en Champagne. Très vite, le roi d'Aragon, Jacques le Conquérant, qui est un roi très entreprenant et qui, vers 1228, 1230, 1232, conquiert les Baléares. Un roi donc victorieux, conquérant, de très grande envergure. Il a voulu aussi avoir l'héritage de la Navarre et il est venu persuader Sanchelefort en 1231 que l'héritage devait lui échoir et que les deux rois devaient être les héritiers l'un de l'autre. Sanchelefort était très âgé et très malade. Jacques était dans la plénitude de sa vie dynamique et réussie. Tout le monde savait en Navarre, et on n'en avait pas du tout envie, que la Navarre serait évidemment croquée par l'Aragon, qu'elle n'aurait aucune autonomie, aucune indépendance encore moins, et que ce serait encore, comme après 1076, une dépendance de l'Aragon. Alors, ce neveu champenois, l'évêque se dépêche, l'évêque de Pampelune, dès la mort de Sanchelefort, le 7 avril 1234, se dépêche d'aller à Provins, qui est la résidence donc du comte de Champagne. Il aurait fait le voyage en 15 jours, et le comte de Champagne et lui auraient refait le voyage inverse, également en 15 jours, puisque le couronnement de Thibaut Ier de Navarre se situe le 5 mai, voyez, du 7 avril au 5 mai 1234. Il est probable que Thibaut savait très bien que son oncle était en train de mourir et il s'était approché. Il avait fait la descente, il ne devait pas être très loin du côté des Pyrénées, mais enfin, la vie officielle le dit ainsi. En tout cas, l'évêque de Pampelune va le chercher et tous les Navarréens sont ravis car ils sont persuadés que ce comte de Champagne va très vite repartir en Champagne, va être, oui, le roi de Navarre, mais depuis la Champagne, qu'ils auront donc une autonomie tout à fait délicieuse à vivre. Ils feront ce qu'ils voudront, tandis qu'avec le roi d'Aragon, c'est évidemment une autre affaire. Et on accepte absolument cet héritier neveu du roi, c'est évidemment très original, et Thibaut est couronné donc par l'évêque Ramiro de Piedrola, qui est venu le chercher, et qui est lui-même le frère de l'alférez Gil de Bastane, qui a un autre nom, vous voyez, car Piedrola étant né en second après son frère aîné, il n'a pas l'héritage de la terre, mais il a le nom de sa mère. C'est très fréquent, donc, là aussi, dans les traditions ibériques. Et donc, la Navarre accepte ce roi. Couronnement d'un roi, situons-le tout de suite. Le roi à l'entrée de la cathédrale, de Pampelune, à la porte d'entrée, doit d'abord prêter serment qu'il observera le fuero général qui vient donc d'être rédigé définitivement dans sa version quasi définitive par Sanche VI dans les années 1170-1180. Nous sommes deux générations après. Il observera le fuero, c'est lui qui se soumet à la loi de l'État. Et dans le fuero, on dit bien qu'il respectera toutes les coutumes, qu'il essaiera de réparer tous les torts de ses prédécesseurs et qu'il gouvernera avec ses officiers navarrais, ses nobles navarrais et ses conseillers navarrais. Plusieurs autres serments, mais enfin, je vous donne là l'essentiel. C'est alors que les autres participants de la cérémonie, les ricombres, c'est-à-dire la haute noblesse navarraise, et les chevaliers reçoivent le roi, prêtent également serment d'observer le fuero, voyez la réciprocité, la collaboration de l'un, de l'autre. On ne gouverne pas tout seul, on gouverne avec les autres, en avare. Donc, prête serment ainsi que l'on dirige et qu'on gérera ensemble. Puis, le roi est élevé. Il monte sur le bouclier, le grand pavois de Navarre, et les ricombres le lèvent. Il faut qu'il y ait une élévation sur son bouclier. C'est une très ancienne coutume, très probablement germanique, que l'on trouve donc dans les royaumes des premières heures en Occident. Du haut de ce perchoir, mais dans le bon sens du terme, le roi doit répandre des pièces d'or en signe de prospérité sur les participants de la cérémonie, montrant que c'est lui le roi qui est ainsi accepté et élevé par les autres, qui doit donner la prospérité. Pendant ce temps-là, ceux qui l'élèvent crient « Réal, Réal, Réal » et une messe est ensuite célébrée par l'évêque, pendant laquelle le roi est intronisé, assis sur le trône, à côté de l'évêque. C'est tout pour le moment. Évidemment, ce roi de Navarre va porter une couronne, mais il n'y a pas de geste du couronnement de part d'évêque, mais l'évêque lui remet son épée, qui est l'insigne de justice, et le roi tire son épée pour montrer que c'est lui le grand juge de son peuple. Voilà, Thibaut Ier se soumet à cette cérémonie, qui elle-même est greffée, vous voyez, de toutes sortes d'influences, influences locales, influences visigothiques, influences germaniques, enfin les voilà là. Et Thibaut Ier, comme son fils Thibaut II et son second fils Henri, car les rois se sont succédés, comte de Champagne mais roi de Navarre, jusqu'en 1274, la mort du roi Henri, ces rois certes vont très souvent en Champagne, mais très souvent sont là en Navarre et font un excellent travail dans le royaume de Navarre, observant parfaitement les coutumes, allant eux-mêmes de village en village où ils écoutent les villageois pour connaître les récriminations, pour savoir qui est noble et qui n'est pas noble. Ceux qui ne sont pas nobles doivent payer une imposition qui est la pecha. Les nobles en sont affranchis. Or déjà, toutes sortes de nobles hidalgos sont mélangés à des roturiers qui devraient être pecheros, mais qui se font passer pour des infanzones, c'est-à-dire des nobles navarrais, et pour ceci, pour ne pas payer la pecha. Donc il faut faire des triages de temps en temps. Voilà. Et puis, rédiger à nouveau les coutumes, reprendre les textes. C'est ainsi que Thibaut Ier, dès 1237, un texte qui va devenir très fondamental et qui va être repris par la suite, un texte dans le Fureau général disant qu'il ne nommera jamais plus de 5 grands officiers étrangers à son royaume. Car il se peut, dit le texte, que le roi et certains officiers soient d'une autre langue, soient étrangers, donc viennent d'un autre pays, mais s'ils ont un office en Navarre, ils ne doivent pas outrepasser leurs droits et surtout on ne doit pas en nommer plus de 5 donc dans ce gouvernement. Il y a façon de statuer sur grand officier, moyen officier, petit officier. On va voir qu'avec les rois de France et Évreux, il y eut une foule successive d'officiers français, oui, tenant toutes sortes de postes, mais les grands officiers, l'alférez surtout, qui est le premier militaire responsable des armées, et puis le garde-sceau du roi, son premier chancelier, le trésorier, doivent être des Navarrais, tous ceux qui gardent les châteaux, les alcaïtes, qui gardent les châteaux, car il y eut jusqu'à une centaine de châteaux en Navarre, doivent être des Navarrais, des nobles Navarrais. Donc on suit le texte ou on ne le suit pas, mais c'est écrit, c'est fondamental, et c'est ça qui est évidemment très important. On accepte un étranger, beaucoup d'étrangers, mais à condition que cet étranger, ces étrangers, se coulent dans le moule navarrais. En tout cas, il y a cette collaboration qui donc peut réussir avec Thibaut Ier, qui part également en croisade. Il est allé à Gaza et à Jérusalem. Thibaut II surtout, qui est le gendre de Saint-Louis. Thibaut Ier avait épousé 3 femmes successives, dont Marguerite de Bourbon, et il en a eu Thibaut et Henri, donc les voilà. Et ensuite, donc, dans la Navarre elle-même, les Navarrais sont là, mais parmi eux se trouvent des Francos, des Frambourgeois, qui pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, sont originaires de France. Nous avons dans les textes des 12e et 13e siècles et au-delà, mais massivement 12e et 13e siècle, dans les villes, tenant les meilleurs quartiers des villes, tenant les meilleures occupations économiques et politiques. Nous avons des noms comme Jean de Limoges, Guillaume de Condon, Jean de Montpellier, Gervais de Falaise, vous voyez donc des Normands, des Languedociens, des Béarnais et des Bigourdans, très nombreux évidemment, des Aquitains, Renaud et Hugues de Concoz, la famille Crousat, dit-on en Espagne, à Pamplune, en Navarre, C-R-U-Z-A-T ou C-R-O-Z-A-T, qui doit probablement venir de Montpellier, où la confrérie des Crusades était réunie pour aider aux croisades dans le pays de la Sainte-Croix, donc dans les croisades en Terre Sainte. Sans doute viennent-ils de là, mais c'est un nom qui peut être également du Massif central. Enfin, des Francos qui sont là, francs-bourgeois, francs-privilégiés, tenant tout le quartier San Cernin de Pamplune, par exemple, tout le quartier de Estelia de Saint-Sauveur, avec les fuereaux de Raca, avec des fuereaux de privilèges. Ils sont changeurs, ils sont manieurs d'argent, ils sont commerçants de draps, de chevaux, ils fournissent tout ce qui est nécessaire à la cour. C'est la réussite économique autant que la réussite politique. Voilà pour ces Francos. Peuplement international, venu avec les pèlerinages très probablement et resté sur place. Ils ont eu envie de rester en Navarre, que voulez-vous, c'était leur droit, ou alors derrière eux. Mais enfin, complétant également ce peuplement très international, les Maures de la vallée de l'Èbre, les musulmans, qui gardent leur culte avec leur structure, avec leur al-faqih, avec leur imam, avec leur al-qadi, qui sont dans la ville de Tudela et dans les villages des alentours, et très très nombreux et très actifs, les Juifs de Navarre, qui se trouvent depuis l'époque andalouse, eux aussi dans la vallée de l'Èbre, donc les plus dynamiques d'entre eux et ceux qui réussissent le mieux sont peut-être ceux de Tudela et de tous les villages des alentours, mais également Juifs de Pamplune, Juifs de Sangüesa, Juifs d'Estelia, de Viana, de Los Arcos, etc., sur la voie des pèlerinages, car eux aussi ont suivi les pèlerins. Les rois de Navarre qui viennent de Champagne gouvernent des Juifs, il y en a aussi en France, mais tout à fait différent, des musulmans, or ils n'ont jamais gouverné de musulmans, des Francos qui viennent de tous les pays, et des Navarrais à part entière. Vous voyez, rois internationaux, pays international, peuplement international, c'est constamment visité par les pèlerins ou les voies des commerces.
Vous venez d'entendre la première partie de La Navarre au Moyen-Âge, un royaume au cœur des voies internationales, conférence présentée par Béatrice Leroy, professeure honoraire à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, enregistrement réalisé le 2 octobre 2015 au Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne.